L'obésité augmenterait de près de 50 % le risque de décès lié à la COVID-19. C'est une information qui circule depuis un petit moment. Et puis là, il y a des études qui semblent le confirmer. On parle aussi du fait que même si on développait un vaccin, il serait peut-être moins efficace sur quelqu'un qui est en surpoids. Je vous pose la question, est-ce que ça vous donne envie d'essayer de perdre du poids un peu? C'est sûr qu'au cours des 5 derniers mois, on a eu l'occasion de rester plus à la maison qu'on l'aurait voulu. Hein? Confiné, on s'est tourné un peu trop sur le sucré. À un moment donné, on ne savait plus quoi faire. T'sais, à un moment donné, c'est ça. Ou l'alcool, c'est plein de sucre. Bref, qu'est-ce que tu veux? On a la dent sucrée ici. On a souvent pensé que ça nous conservait pendant nos longs mois d'hiver. Puis c'est pas faux. Mais en même temps, ça a un impact sur votre physique, sur votre santé. Pour répondre à ma question, vous faites le 514-790-9850 et le 1-866 partout au Québec, 1-866-790-9850. J'en parle avec le docteur Maurice Larocque. Il est auteur du livre « L'obésité n'est pas une maladie ». C'est un médecin bien connu en matière d'obésité. Bonjour, docteur Larocque.
Bonjour Isabelle.
Ben, vous le saviez un peu hein, que ça allait sortir ce genre de données-là, que l'obésité augmente de près de 50 % le risque de décès, pas juste de l'attraper, là, mais d'en mourir aussi de ce COVID-19.
Tout à fait, tout à fait. Même en France, il y a à peu près un mois, on réalisait que 83 % des gens aux soins intensifs qui souffraient de COVID étaient des gens en surpoids, étaient obèses, alors que la prévalence en France, c'est 17 % Alors, 17 % puis 83 % étaient aux soins intensifs de la COVID. C'est presque 5 fois plus.
Nous, on n'a pas ce genre de données-là. Ici, au Québec, on ne sait pas.
Non, pas encore. Pas à ma connaissance, c'est ça. Mais c'est tellement une condition nouvelle. Puis tous les pays font, en Angleterre aussi, ils ont sorti d'autres études aux États-Unis, au Canada, on en sort aussi. Mais effectivement, c'est un domaine qui est vaste. Et on doit se fier évidemment à ce qui se fait aussi en recherche ailleurs, parce que l'analyse que vous mentionniez, c'est une qui a été publiée par une université américaine. C'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 75 études, ils ont passé à travers 75 études sur le sujet et ils ont recensé 400 000 personnes. Mm-hmm. Et à la suite de ça, bon, on dit il y a à peu près 48 % des gens effectivement qui l'obésité est reliée à leur décès. 74% le fait d'être aux soins intensifs. Alors, il y a deux fois plus d'hospitalisation des gens en base. Là. Ça nous fait réaliser même quelque chose qu'on pouvait soupçonner, mais qui est encore plus fort qu'on pense, c'est que l'obésité est un facteur majeur. J'ai le goût de dire une maladie systémique, mais comme je crois pas que l'obésité est une maladie, c'est un état systémique qui engendre des maladies à cause justement du phénomène inflammatoire. Alors, si on prend la haute pression, maladie cardiaque, diabète type 2, cholestérol augmenté dans le sang, alors on se rend compte que ça favorise l'inflammation, alors donc diminue le système immunitaire et rend vulnérable à toutes les infections, dont la COVID-19 et probablement des cancers aussi.
Parce que le fait que l'obésité ait un impact, soit un facteur de risque, comme vous le dites justement, Dr Larocque, ça touche quasiment toutes les maladies maintenant, là.
Et bien, c'est ce qu'on réalise. Et puis, toutes les maladies les plus graves, dont le diabète type 2 qui est en épidémie dans le monde occidental, les maladies cardiaques, c'est presque la moitié des maladies cardiaques qui sont reliées à ce qu'on mange et donc au phénomène inflammatoire lié à ça, la haute pression. Pour les gens qui ont des syncopes ou qui ont des accidents vasculaires cérébrales, c'est vraiment le phénomène. Moi, je pense que c'est la maladie du siècle parce que ça dépasse maintenant la cigarette.
L'obésité, ça, c'est la maladie du siècle et non pas la COVID-19, hein?
Exactement, parce que je suis en train d'écrire un 15e livre et ça fait partie de ma préface. Oui, la COVID-19, c'est un état d'épidémie, de pandémie mondiale, mais l'obésité l'est aussi depuis une quinzaine d'années et tue beaucoup plus que la COVID, mais on prend ça un peu pour acquis, on en fait moins de publicité, mais c'est...
Pourquoi d'ailleurs ça? Parce que des maladies qui tuent plus que la COVID-19, il y en a d'autres. Mais c'est vrai, vous avez très justement raison de le dire, Dr Larocque, que l'obésité fait énormément de ravages. Puis on disait que ça commence à se dire un peu plus aujourd'hui, mais c'est très difficile de convaincre les gens que l'obésité, c'est plus qu'un état, que c'est une maladie qui a un impact sur toute la santé physiologique, là.
Et c'est le défi. Moi, j'ai consacré ma vie de médecin à essayer de promouvoir ça. Là. Comme je disais, j'ai écrit mon 15e livre. Mm-hmm. Mais c'est pas facile. Peut-être parce que la nourriture, moi, là, je pense que le facteur qu'on oublie en médecine, c'est le facteur émotionnel, c'est le facteur psychologique. Mm-hmm. Et on peut pas considérer l'être humain uniquement par une prise de sang ou une mesure de tension artérielle ou du pouls cardiaque. C'est derrière ça, il y a une humain qui a des émotions. Et à quelque part, la médecine, malheureusement, ne tient pas ça beaucoup en compte. Donc, le rôle du stress, le stress physiologique, le stress psychologique, la détresse, l'anxiété. Et la COVID en est un super bel exemple. Parce que, dit oui, bon, les gens étaient plus sédentaires, on a brûlé moins de calories, on a pris plus de nourriture sucrée, on a pris plus d'alcool.
Ouais.
Il faut aussi réaliser que l'alcool, c'est la meilleure pilule pour les nerfs que je connaisse.
C'est vrai, tellement. Puis là, c'est vendredi, puis il y en a beaucoup qui vont se prendre un petit verre de vino là, pour célébrer la fin de la semaine. Là.
Oui, pour se relaxer.
Exact. On a Anne avec nous, Dr Larocque. Vous me permettrez de donner la parole à Anne, qui, elle, a maigri depuis la pandémie. Bonjour, Anne.
Oui, bonjour, Isabelle. Moi, c'est assez bizarre. J'ai maigri de 3 kilos pendant la pandémie parce mm-hmm. que j'ai plus dormi.
Ah, ben oui, puis on le dit. Qui dort, Dine?
Parce que sinon, quand je travaille, j'ai pas beaucoup de temps pour dormir, alors je dors que 6 heures par nuit, puis ça fait que j'engraisse. C'est étonnant, je sais pas, là, mais...
Non, c'est pas étonnant, c'est documenté, Dr Larocque, hein?
Tout à fait. Il y a des études, même beaucoup qui sont devenues de l'Université Laval à Québec, ont démontré l'importance du sommeil. Et effectivement, moins qu'on dort, bon, plus on est fatigué. Une des explications, parce qu'il y en a plusieurs sur le plan physiologique, mais une des explications, c'est aussi quand on est plus fatigué, quand on mange et on mange du sucre, ça donne un rush d'énergie. Ça donne donc une source d'énergie plus grande. Et ce qui nous aide à passer à travers notre journée. Et c'est la même chose. Moi, ce qui m'avait renversé dans ma pratique, c'est de voir des gens, lorsqu'ils partaient en vacances, perdaient du poids. Un peu comme Anne, là, je veux dire. Comment ça se fait? La plupart des gens en vacances font pas attention, ils prennent du poids. Mais il y en a qui sont moins stressés, moins anxieux, et effectivement, ont tendance à moins consommer. Alors, vous avez raison, hein, de souligner que 6 heures, pour vous, c'est pas suffisant. Alors, chaque être humain, il va évaluer. Il y en a que 6 heures, ça pourrait être correct, puis d'autres ont besoin de 8. Puis d'autres ont besoin de 7. Alors ça, on le sait, si la journée se passe bien, puis si on voit qu'on a des coups de fatigue dans la journée alors qu'on a bien mangé, etc., on peut penser que le manque de sommeil, effectivement, joue un rôle important.
Effectivement. On va aller à la pause. Mais merci, Anne, en tout cas. Merci bien de ce témoignage. 514-790-9850. Et de l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous avez pris du poids pendant cette période de pandémie. Puis si là, cette nouvelle que l'obésité élèverait de 50 % à peu près le risque de décès de COVID-19 et même près de 75 % d'augmentation des risques quand, si vous êtes admis aux soins intensifs à cause de la COVID, bien, vous avez donc un risque accru là, de succomber. Alors, c'est pas rien. Dites-moi si ça vous inquiète. À tout de suite, tout le monde. Donc, l'obésité augmenterait de près de 50 % le risque de décès lié à la COVID-19, mais il y a aussi un risque accru d'être admis aux soins intensifs. Alors, on a tout de suite rejoint le Dr François Marquis, bien sûr, qui est aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, Dr Marquis.
Bonjour.
Est-ce que c'est un fait que les gens que vous avez soignés, François, sont plus obèses que la moyenne, vous diriez?
Bien, avant même que ça commence à faire les manchettes, cette histoire-là, effectivement, nous, on l'avait remarqué. Il faut savoir que toutes les personnes obèses ont toujours un peu plus de difficultés respiratoires et peu importe la raison pour laquelle on a besoin de se faire brancher sur un respirateur, quand on a un surpoids ou une obésité franche, nous, on voit tout de suite une différence. Ils désaturent plus vite, sont un peu plus difficiles à ventiler. Mais dans le cas de la COVID, d'une infection à COVID, ça nous semblait disproportionné par rapport à juste ce qu'on s'attendrait là, habituellement, par exemple, d'une personne obèse qui aurait une pneumonie bactérienne, le pneumocoque. Là. Mm. Et ça, les docteurs ont signé à se parler de ça là, entre intensivistes, en voulant dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis on s'est rendu compte finalement que tout le monde avait un peu la même observation. C'est pas clair pourquoi, mais c'est absolument vrai.
Ouais. Docteur Maurice Larocque, est-ce que vous savez pourquoi ça pourrait être, c'est le cas en fait, le confirmé par le docteur Marquis?
Mais je suis d'accord avec le docteur Marquis, on a des soupçons sur certaines choses, mais on ne sait pas vraiment encore exactement pourquoi. Le phénomène inflammatoire est important, la graisse viscérale, le fait que ça pousse, il y en a beaucoup de graisse à l'intérieur du ventre, alors ça pousse le diaphragme, il n'y a plus de difficulté à respirer. C'est complexe. Je pense qu'on n'a pas tout, effectivement, comme dit le docteur Marquis, on n'a pas toutes les réponses encore.
Mm-hmm. Ouais. Et c'est clairement pas un simple mécanisme, 1 plus 1 égale 2, là. Il faut comprendre que le gras, c'est pas juste du gras. Hein. Le gras, c'est des cellules qui sont métaboliquement actives. Elles relâchent des signaux dans le corps. Et il faut pas juste dire, ah, du gras, c'est du poids mort que je transporte. Et c'est ce qu'on se rend compte dans l'obésité, tout le phénomène inflammatoire. C'est pas juste du poids. Il y a une grosse différence entre transporter, comme dire quelque chose, 20 kilos de gras sur le bedon que de transporter 20 kilos de patates dans un pack-sac. Là.
Ouais, mais est-ce qu'il y a une obésité qui est pire que l'autre ou plutôt un type de gras ou surtout localisé à des endroits pires que d'autres, vous diriez?
Ben, moi, j'ai l'impression que l'obésité viscérale, là, ce qui est finalement là, la bedaine, là,
ouais.
Nous cause beaucoup plus de problèmes au point de vue mécanique, ça c'est certain. On pense aussi au point de vue inflammatoire. C'est certain que quelqu'un là qui a des grosses fesses et des grosses cuisses, ça n'a pas d'impact sur sa mécanique respiratoire. Mm-hmm. Mais les gens qui ont vraiment une obésité abdominale ou qui ont une obésité au niveau du thorax, nous, d'un simple point de vue mécanique, ils ont comme un éléphant qui est tout le temps assis sur leur poumon. Là. Il faut comprendre que couché sur le dos, le poids du ventre comprime directement les poumons parce qu'il ne peut pas aller ailleurs. Et ça, c'est important. Il y a des patients, des fois, que juste, on change la position du lit. Et vous avez entendu parler que les gens qui avaient la COVID, on les ventilait souvent sur le ventre.
Mm-hmm.
Mais entre autres, c'est en partie pour contrecarrer le poids du gras dans le médiastin, là, la zone autour du cœur puis des poumons.
Avez-vous remarqué plus d'hommes que de femmes aussi? Parce que ça, c'est aussi ressorti pendant la pandémie. On semblait dire que c'est une maladie qui toucherait plus les hommes. Est-ce que ça peut être lié à cette question d'obésité, du poids là, sur la fameuse bédaine, finalement?
Ouais, peut-être, mais je dirais que dans mon observation du soins intensifs à Maisonneuve, on a eu pas mal des deux sexes atteints également, là, je pourrais pas jusque là dans ma petite observation.
Docteur Larocque.
Ben souvent il y a l'obésité abdominale, on le voit chez les hommes plus fréquents, on voit la bédaine, alors que les femmes peuvent avoir ça aussi, mais c'est moins fréquent. Souvent c'est gynoïde, alors c'est plus au niveau des hanches ou du bas du corps. Alors à ce moment-là, ça a probablement moins d'implications métaboliques. Mais tu sais, pour vous donner une idée.
Oui. Docteur Larocque, oui.
Il y a effectivement, il n'y a pas juste le poids de la graisse. Tantôt, je voyais un patient qui avait peut-être quoi 20 litres de trop, mais diabétique type 2, trois types de médicaments et hors contrôle avec des symptômes proches du coma diabétique. Et juste le fait, une semaine après, d'avoir modifié son alimentation, avoir perdu peut-être 5 ou 10 livres maximum, et qui est transformé en une énergie nouvelle, parfum, c'est une révélation. Alors, il y a le côté poids lui-même, mais il y a beaucoup, beaucoup, comme Dr. Marquis souligne, le rôle de la biochimie. On est encore un peu dans le néant, on connaît pas tout. Ce qui se passe au niveau de la cellule graisseuse, entre autres, et des sécrétions des hormones associées à ça.
On a Pierre qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Regardez, moi, j'ai 62 ans.
Oui.
Toute ma vie, j'ai été au régime, j'ai fait des régimes. J'ai dû perdre 300 livres là, jusqu'à maintenant dans ma vie. Et depuis 2 ans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, fasting en anglais, en tout cas.
Ouais.
Et j'ai perdu 70 livres. Puis, vous dire, durant le temps de la COVID, j'ai pas pris une livre. Hein.
Mm-hmm.
Je continue à faire ça et j'ai jamais été aussi en forme. Je vais même en rajouter. Pendant le temps que j'étais avant en régime, je faisais des reflux gastriques et ça n'a pas réglé mon reflux gastrique. En faisant mon jeûne intermittent, j'ai réglé ça. J'ai réglé ma perte de poids, j'ai plus de 6 packs, là, un appareil respiratoire la nuit. Pour moi, c'est une révélation. Les gens qui me voient autour de moi, ils me disent, voyons donc, on dirait que t'as perdu 20 ans.
Et vous continuez de le faire. Le jeûne intermittent, il y a de plus en plus de gens là, qui le font puis qui en parlent en plus grand bien. Mais Pierre, dites-moi, vous jeûnez combien de fois? Là, comment vous le faites rapidement?
Ah, ben moi, c'est une fenêtre pour manger. Disons que moi, je suis un peu assez extrême. Moi, ma fenêtre, c'est de 4 heures à 8 heures.
C'est ça. Puis après 8 heures, jusqu'à 8 heures le lendemain, vous mangez pas du tout. C'est ça?
Non, jusqu'à 4 heures le lendemain. Mais moi, vous dire, quand je mange, je mange. J'adore manger. Je mange en quantité industrielle. Là.
OK.
Puis quand c'est le temps d'arrêter, ben je t'arrête.
C'est intéressant. J'adore manger. On fera un sujet là-dessus, sur le jeûne intermittent, parce qu'il y a de plus en plus de gens là, qui s'y intéressent. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Dr. Marquis, d'avoir pris le temps. Là. Je vous ai sorti de votre salle pour pouvoir répondre à cette question-là, mais je trouvais que c'était intéressant qu'on ait votre avis là-dessus, étant donné qu'il y a quand même 74% de risque augmenté d'être admis aux soins intensifs avec un cas de COVID là, pour gens qui sont obèses. Et puis, on rappelle... 48% c'est le risque de décès si vous êtes obèse. Merci beaucoup, Dr. Maurice Larocque, de nous avoir parlé. On va attendre votre 15e livre avec beaucoup d'intérêt.
Oui.
Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Ça a été une belle semaine de discussion et d'échange avec vous. Merci à Maxime Paquette à la technique. Merci à Isabelle Laure et Normand Gem, mes recherchistes. Merci à vous. Passez une très, très belle fin de semaine sur nos ondes. À lundi, tout le monde.